Richard.
Oui.
Soyons sérieux, là.
Oui.
Et loin de moi l'idée de rire du fan des Cowboys que tu es. Parce que j'empathise énormément avec mon très, très bon ami Richard Labbé. Mm-hmm. Comment te sens-tu par rapport à la situation de Micah Parsons? Tu l'as dit, qui est probablement un des deux meilleurs joueurs de ligne défensive que tu as vu jouer dans ta vie pour tes Cowboys et qui demande une transaction.
Greg, laisse-moi te poser une question en premier.
J'écoute. T'aimes ça poser des questions hein, dans tes chroniques?
Est-ce que tu trouves que 10,1 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent?
Oui, c'est beaucoup d'argent.
Parfait. Laisse-moi te poser une deuxième question.
J'écoute, je suis habitué maintenant.
Si tu étais le propriétaire d'une équipe qui vaut 10,1 milliards de dollars, est-ce que tu écœurerais ton meilleur joueur en lui disant « Écoute, excuse-moi, on n'a pas d'argent. »
Absolument pas. Jamais. Non. Je m'empresserais de le signer avant même qu'il pense vouloir quitter un jour mon organisation.
Ben voilà. Moi, là, Greg, ma fibre bleue et argentée est touchée présentement dans sa douleur la plus profonde. Là, je suis sur le bord d'aller chercher mes vieux chandails de Tony Romo. Greg, donnez ça à mon chien ce soir pour qu'il s'amuse avec. Écoute, quand tu as l'argent de la famille Jones et que tu te comportes comme un club de petit marché, moi, il n'y a rien qui m'horripile le plus que ça dans tout le sport professionnel. Tu sais, je comprends, là, mettons, je ne sais pas, moi, tu sais, dans le temps, on va en parler un petit peu d'ailleurs un peu plus tard de baseball, mais tu sais, dans le temps où les expos tirait le diable par la queue, puis là, on a besoin d'un nouveau stade, puis on n'a pas assez de loges, puis le contrat de TV n'est pas assez bon, puis ci, puis ça. Tu sais, clairement, financièrement, les Expos, c'était un club qui était fragile. Et bien, ce que ça donnait, malheureusement, c'est qu'on avait du monde, du mal à payer les joueurs, puis les joueurs partaient, puis malheureusement, le club a fini par partir. Mais quand tu fais partie... Et Greg, j'ai pas regardé récemment, mais je pense que les Cowboys, dans le monde entier... si je ne me trompe pas, sont dans le top 5 des équipes les plus riches.
Ah, c'est sûr!
T'sais, tout sport confondu. Je pense que Manchester United est premier.
Leur stade rentre 100 000 personnes, Richard. 100 000!
Ouais. Et là, tu te comportes comme si t'étais un pauvre. T'sais, honnêtement, moi, je pense qu'on en a parlé récemment, Greg. C'est pas la première fois que Jerry Jones fait ça.
Mais non, c'est pas la première fois.
Écoute, il a fait ça à Emmitt Smith. Greg, il a dit à Emmitt Smith, on n'a pas d'argent pour toi. Reste chez vous. Il a dit ça au plus grand porteur de ballon de l'histoire du football américain. Excuse-moi, Emmitt. On ne peut pas te payer. J'ai de la misère de payer mes factures d'électricité. Je suis sur le bord de la paille. On ne peut pas te payer,
non,
Emmitt.
Mais ça, Richard, ça se peut pas.
On est désolé.
C'est complètement débile. Ça se peut pas.
Oui, et là, parlez-moi pas du plafond salarial. Je sais qu'il y en a un. Je suis conscient de ça, 279 millions. Greg, les bons DG, les bons administrateurs vont sortir de la calculatrice et vont s'arranger pour que les meilleurs joueurs de l'équipe rentrent en dessous du plafond. Tu sais, les Pats, là, pendant des années, là, ils ont gossé, puis regossé, puis recommencé le contrat de Tom Brady. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, ils voulaient payer leurs meilleurs joueurs, mais ils voulaient aussi s'organiser pour que ça rentre sous le plafond salarial. Et ça a fait en sorte que les Pats ont pu garder Brady pendant de nombreuses années. Et ça a fait en sorte qu'ils ont pu gagner pendant de nombreuses années. Tu sais, si les Pats avaient dit à Brady, « Ouais, on est désolé, là, on peut pas vraiment te payer. » Là, ben, il aurait dit, « OK, parfait, je prends mes affaires puis je m'en vais. » Et fort probablement, Greg, très, très, très fort probablement que les Pats n'auraient pas eu les succès qu'ils ont obtenus. Ben là, tu as ton meilleur joueur. J'allais dire le meilleur joueur en défense chez les Cowboys, mais je pense que c'est le meilleur joueur tout court. Là. Moi, parce que moi, je le trouve meilleur que CeeDee Lamb. Je le trouve meilleur que Dak Prescott en termes d'impact qu'il a sur le jeu. Là, tu vas aller dire à ton meilleur joueur, ben écoute, désolé. Ça marchera pas. Puis garde, ben oui, demande une transaction. Puis ça va être ça. Écoute, Greg, tu sais, j'ose croire que ça fait partie de tout ça d'un grand théâtre de négociation. Puis c'est certainement pas nécessaire, mais j'ose croire que ça fait partie de ça. Et j'ose croire que Micah Parsons va être sur le terrain quand ça va commencer début septembre. Mais Greg, si il n'est pas là, et pire encore, s'il porte un autre chandail parce qu'il a été échangé, je ne sais pas quel mot utiliser. Le scandale n'est pas assez fort.
Bien, on va suivre ça, on va suivre ça à 100%, puis t'as raison, c'est un scandale. C'est comme si ça avait été le cas, je sais pas moi, avec Joe Burrow, avec les Bengals, t'sais, tu refuses de le payer, puis c'est à peu près ça l'impact qu'il a. T'as payé Dak deux fois, là. T'sais, deux gros contrats pour Dak Prescott. Ça a tout pris pour CeeDee Lamb l'année passée, puis là, tu fais le coup, tu ne peux pas perdre Micah Parsons. Puis
Et
là.
aussi, ouais, puis tu sais, l'impact que ça a ça, sur le reste des joueurs. Tu sais, les joueurs, même les joueurs qui sont pas à Dallas, qui sont ailleurs, regardent ça. Ils se disent, oh, OK, là, eux autres, ils se chicanent, puis ils veulent pas payer leurs meilleurs joueurs. Comment ils se comportent, mettons, avec les réservistes, avec les gars qui ont peut-être pas un impact similaire? Là, c'est quoi qui arrive? Tu sais, c'est l'image aussi que tu envoies au reste de la ligue, puis aux joueurs, en fait. C'est absolument affreux, là, présentement. Alors, j'ose, encore une
Non, non,
fois,
c'est.
j'ose croire, Greg, que tout ça n'est que du théâtre et qu'on est dans les négociations, puis on veut faire semblant qu'on veut sauver une coupe de pièces, puis qu'on va finir par s'entendre. Je peux pas croire qu'il va y avoir un autre règlement que celui-là.
Ouais, écoute, ben là, il a demandé un échange. T'sais, on n'en parlerait pas si ce n'était que négociation, mais là, quand tu demandes un échange, c'est plus de la négociation, c'est. C'est rendu du sérieux. Maintenant, parlons des choses qui nous préoccupent ici. Puis c'est drôle, j'ai lancé ce sujet-là et toi aussi, tu voulais en parler. Est-ce que Patrick Laine s'annonce comme un grand retour cette année? Est-ce qu'il pourrait nous surprendre avec une grosse saison, selon toi?
100%. Évidemment, c'est dans le cas qu'il soit capable de rester en santé. Puis ça, c'est un gros si parce que malheureusement, l'aîné a eu des problèmes de santé dans les dernières années, certainement l'an passé, ça c'est sûr et certain. Mais moi, Greg, ce qui m'avait marqué l'an passé, avant le début de la saison, deux choses. Premièrement, quand on a su que les Blue Jackets avaient mis l'aîné sur le marché, le divorce c'était annoncé. On ne voulait plus de lui là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont levé la main, Greg, parce que les Blue Jackets ont insisté pour que l'équipe qui ramasse le contrat le ramasse en entier, je parle financièrement. T'sais, on ne voulait pas retenir du salaire. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y avait pas un énorme marché. Mais le Canadien a levé la main, évidemment. Et le Canadien, dans son évaluation, pensait à ce moment-là que Laine allait être un joueur important. Puis tu sais, Greg, honnêtement, quand il a été là, il n'a pas joué beaucoup comme on l'a mentionné, mais quand il a été là, quand il a été en santé, ça a été un joueur important. Tu sais, le rythme qu'il avait, souviens-toi, à un moment donné, c'était un rythme de 35 buts là, dans la saison, peut-être 40 même. C'était un rythme très, très soutenu. Et c'est ça que la direction du Canadien avait envisagé. On pensait que Martin St-Louis, un nouveau système de jeu, allait permettre à Laine de se retrouver. Et c'est un peu ça qui est arrivé. Encore une fois, le problème, c'est les blessures parce que c'est difficile de juger d'un joueur qui n'a pas été à 100% très souvent l'année passée.
Ouais, mais il a dit, tu sais, un, il n'était pas à 100% quand il est revenu. Il a rempli le
Ouais.
filet pareil, comme tu l'as bien dit. Mais quand il a fini la saison, il y avait quelque chose là. T'sais. Il a dit que c'était juste son doigt, mais que son genou était correct. Mais il était clairement diminué par quelque chose. Là. T'sais, à mon avis, là, c'est cette vilaine blessure-là au genou l'a rattrapé à la fin de la saison. Il a dit, mon genou est correct, posez-moi pas. C'est ce qu'il a dit là, dans les entrevues de. Du fameux wrap-up de la saison, du bilan, c'est-à-dire. Et tout le monde a été surpris de ça. T'sais. À mon avis, là, il a pris du temps pour se reposer. Puis là, il a l'air en grande forme et surtout, c'est son premier été en combien de temps, Richard, qui peut s'entraîner en bonne forme physique et mentale?
Oui, et sans penser à où il va jouer, parce que malheureusement, comme j'ai mentionné, il avait brûlé un petit peu les ponts du côté de Columbus. Ça a créé de l'incertitude aussi. Je comprends là, qu'il est très bien payé pour mettre des points au tableau, mais malheureusement, la réalité des fois pour certains joueurs, c'est qu'il peut avoir des dérangements. Puis clairement, Laine avait été dérangé par sa situation là-bas à Columbus. D'autres affaires, Greg, c'est que l'an passé, quand il est arrivé ici au tournoi, juste avant le tournoi, pendant le tournoi de golf, donc le matin, je me souviens, il s'est présenté. Et je me souviens de son optimisme et de son enthousiasme. Tu sais, des fois, il y a des gars qui arrivent, puis t'es pas trop sûr de ce que ça va donner parce que t'écoutes les déclarations, puis il y a des points d'interrogation. Mais dans le cas de Laine, moi, je sentais clairement que lui voulait un nouveau départ et qu'il allait profiter de ce nouveau départ-là. Puis là, tu sais, il y a le tournoi de golf, puis je pense que 3 semaines après, c'était terminé pour lui. La blessure au genou, ça a été quoi, 2 mois après ça, avant qu'on le revoie? Tu sais, ça a complètement déraillé les choses. Mais bref, pourquoi je te dis ça? C'est parce que là, on voit, on entend parler du côté de Brassard, il y a des gars qui patinent, et il y a lui qui patine, qui se présente, semble-t-il, selon mes informations là-bas, là, très tôt. Il est le premier sur la glace. Clairement, il est dans un bon état d'esprit. Alors, moi, je pense que cette saison, il reste une année de contrat. On a spéculé sur son futur. T'sais, je pense pas que, premièrement, ça serait difficile de l'échanger, mais je pense que le Canadien de Montréal veut voir le Patrick Laine que l'on croyait avoir obtenu il y a un an. Puis, si on voit là, ce Patrick Laine, là, Greg, saison de 35-40 buts, là, honnêtement, c'est dans le possible.
Ben, il était même sur ce rythme-là l'an dernier avec certains passages à vite. Mais je te pose une question, parce que nos auditeurs donnent souvent... c'est sa dernière année de contrat aussi. Ça, c'est un, ça aide toujours les joueurs qui veulent renégocier, bien sûr, leur futur dans la Ligue nationale de hockey. Mais également... nos auditeurs nous suggèrent qu'il serait une mauvaise influence dans le vestiaire. J'ai fait le vestiaire quoi, le quart de la saison en tout et partout, là, une vingtaine de matchs à peu près. Toi, t'es là plus souvent que moi, puis tu vas sur la route, là, Richard. Alors, je peux te poser la question. As-tu eu des informations ou as-tu observé qu'il était un mauvais coéquipier d'une façon ou d'une autre, toi?
Jamais. Et puis même, je vais te dire une chose, quand il y a eu l'incident, souviens-toi, là, avant Noël un petit peu, là, il y avait eu le match à Columbus, il y avait émis des commentaires que certains partisans des Jackets n'avaient pas apprécié. Et il avait été là, la cible, de malheureusement, d'insultes là, sur les réseaux sociaux. Puis je sais que ça l'avait beaucoup affecté. Et je me souviens, j'étais dans l'hôtel de l'équipe pour le match suivant. Là. Ça devait être, je pense qu'on était en Floride. Et je me souviens que, souvent les joueurs descendent à l'étage pour les meetings. Là. Souvent l'équipe va louer une grande salle de bal, puis on va faire des meetings là, puis on va faire le lunch des joueurs là-bas. Et à un moment donné, on l'avait vu descendre. Et je me souviens que tous les coéquipiers qu'il voyait passer, lui donner une petite tape dans le dos, petit high five. Clairement, Patrick Laine était beaucoup, beaucoup apprécié. Clairement, il est beaucoup apprécié de ses coéquipiers chez le Canadien de Montréal. Moi, honnêtement, Greg, j'ai aucunement vu ou entendu parler des histoires selon lesquelles il aurait été un coéquipier désagréable dans le vestiaire. J'ai pas vu ça. Souvent, tu vois ça un petit peu. Tu vois un joueur qui est à l'écart, tu vois un joueur qui a des...
Ouais, t'observes ce genre de truc-là.
Ouais, tu vois des joueurs qui tombent sur les nerfs des autres. T'sais, ça, tu le vois. Puis honnêtement, moi, à chaque fois que je le voyais descendre à l'hôtel pour aller au meeting avec les autres joueurs, j'ai jamais remarqué que Patrick Laine était seul dans son coin. Il était toujours avec d'autres joueurs. Souvent, on faisait des blagues avec lui. J'ai jamais remarqué ça.
Bon. Voilà qui répond à la question. Merci beaucoup, Richard. Toi, tu dis, quand on regarde les Nationals actuellement, est-ce qu'on peut dire que... Est-ce que les Expos auraient été encore compétitifs dans la MLB?
Écoute, j'ai eu un gros élan de nostalgie en écoutant juste avant toi mon ami JP Burt qui avait Alain Choquette.
L'excellent JP Burt.
Oui, l'excellent. Puis il parlait de balle avec Alain Choquette, c'est très intéressant. Puis je me suis mis à. Ben oui, c'est sûr que je me suis mis à regarder ça un petit peu. Effectivement, les Nationals sont. Ça fait maintenant 20 ans qu'ils sont là. Au moment où on se parle d'ailleurs, Greg, ils sont derniers dans leur division. C'est probablement là que les Expos seraient d'ailleurs. Et je regardais au moment où on se parle toujours, Greg, les six meneurs de division. Puis là, évidemment, on n'est pas encore à la série mondiale, on n'est pas dans les séries, le classement peut changer. Je comprends ça, on ne gagne pas de championnat au mois d'août. Mais présentement, parmi les six meneurs de division au baseball majeur, il y a quatre équipes qui font partie du top 10 des équipes les plus riches du baseball majeur. On a Toronto qui a la cinquième masse salariale. On a Houston qui a la septième masse salariale. On a les Mets qui ont la première. Et on a les Dodgers qui ont la deuxième. Les intrus là-dedans, c'est Détroit et Milwaukee. D'ailleurs, Milwaukee qui s'accroche péniblement, eux, ils ont la 23e masse salariale. Puis Greg, je regarde ça de manière avec la tête froide, comme d'habitude.
Oui.
Les Mets, là, Greg, ont une masse salariale cette année de 323 millions de dollars. Et l'équipe qui est 30e à ce chapitre, les Marlins de Miami ont une masse salariale de 67 millions de dollars. Alors, Greg, je ne suis pas très fort en maths, là, mais entre 323 et 67, il y a un écart assez considérable. Et mon point, c'est le suivant, Greg, c'est que si les Expos étaient encore en vie, ou admettons qu'ils reviennent demain matin, là, on va faire un coup de baguette magique, là, puis on invente un nouveau stade, puis oh, admettons qu'ils reviennent. La masse salariale des Expos ne serait pas de 323 millions. Ce ne serait pas assurément la masse salariale des Mets de New York. Elle serait probablement plus proche de la masse salariale des Marlins de Miami, qui est, je le répète, de 67 millions. Alors, Greg, est-ce que le public montréalais, qui est reconnu pour être très exigeant avec la victoire, tout le monde l'est en général? Mais à Montréal, si tu gagnes pas, souvent tu tombes dans l'indifférence un petit peu, à part peut-être le Canadien. Mais tu sais, si Greg, on avait une équipe avec une masse salariale de 70 millions à peu près, puis qu'on avait la pire fiche des majeurs ou la deuxième pire fiche des majeurs, est-ce que les gens seraient au rendez-vous?
Mais tu sais, t'as dit que les Brewers de Milwaukee avaient la 23e masse salariale, puis ils se disputent présentement la tête. En fait, ils vont faire les séries, là, les Brewers. Bon, les Cubs sont en tête de la division. On a bien repêché avec les Brewers, notamment avec le fameux lanceur, c'est Mizorowski, son nom, je crois. T'as Jackson Chourio qui est là. On a bien entouré ça avec quelques vétérans qui performent bien aussi. T'sais. Voilà une équipe dans un petit marché qui pourrait faire causer des belles surprises. T'sais. Alors, oui, puis on en a déjà parlé, on est en deux temps dans la MLB. Mais t'sais, les Nationals de Washington, je pense qu'il y a eu énormément de mauvaises décisions. C'est quand même une organisation qui avait Juan Soto, une organisation qui avait Bryce Harper, Strasburg, qui, bon, lui, ça a été des blessures et tout le reste, là, mais la question, le monde à Montréal, serais-tu venu voir Harper et Soto ensemble? En plus qu'il y a eu une série mondiale qui s'est gagnée cette équipe-là.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Puis, donc, je ne sais pas ce qui est arrivé du côté des Nationals. Est-ce qu'on a décidé qu'on faisait maison nette puis qu'on échangeait tout le monde? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Moi, je t'avoue que
Ben,
j'ai pas regardé.
à deux reprises, là, on a eu le pactole pour Soto. Ça, c'est la première des choses. Puis
Ouais.
la deuxième, Harper, je pense que c'était. Harper voulait jouer à Philadelphie. C'est à peu
Je
près
vais te
ça.
donner un exemple. Au printemps dernier, le Canadien était à Saint-Louis vers la fin de l'année, puis j'étais dans le voyage, puis les Cards amorçaient leur saison locale.
Ouais, Renaud nous l'a conté. Ça, c'est la religion à Saint-Louis, c'est les Cards, là.
Oui, mais les Colts amorçaient leur saison locale. Puis je me souviens, notre hôtel était à côté du stade des Colts. Et je me souviens que j'étais allé au guichet pour le fun, m'enquérir un petit peu comment ça va, le prix des billets, tout ça. Puis j'écoutais beaucoup les conversations. Puis beaucoup de gens disaient: Ah ben moi, cette année, je viens pas parce que c'est terminé. On n'aura pas de saison. Et de mémoire, je pense que la direction des Colts avait changé peut-être une couple de joueurs ou en tout cas, il est arrivé quelque chose. Mais bref, c'est plate ça, Greg. La saison n'a même pas commencé. Et tes partisans se disent déjà: Ah ben nous autres, on n'a aucune chance. De toute façon, c'est terminé. Tu sais, c'est. Et puis, tu sais, moi, à mon avis, c'est ce qui fait l'énorme succès de la NFL. C'est que la saison commence. Puis tout le monde, sauf les Jets de New York, ont une chance. Tu sais, c'est que ton partage des revenus est tellement bien fait que si tu as une direction qui est moindrement compétente,
Et les Cowboys qui finissent par pas avoir de chance, ça, c'est une autre affaire.
ouais, ça, on n'en reviendra pas là-dessus. On a déjà perdu beaucoup de temps sur eux. Mais c'est ça mon
Mais
point, Greg.
l'expérience du baseball, Richard, est différente. Tu sais, mettons qu'on avait été à Saint-Louis ensemble. Je dis ça de même. C'est sûr qu'on serait allé voir un match de balle. Pas pour voir les Cards gagner, juste pour s'asseoir, prendre une bière ensemble, goûter à la bouffe qu'il y a dans le stade, voir un nouveau terrain. C'est ça, la balle. C'est complètement différent des autres sports que tu t'en vas voir qui sont plus rapides, spectaculaires. Tu sais, tu t'en vas voir un match de basket, tu t'en vas voir un match de la Ligue nationale de hockey ou de la NFL. C'est du fast-paced, c'est spectaculaire, tout ça. Le baseball peut l'être aussi, mais c'est relaxant. C'est l'expérience. Tu sais, tu peux avoir la pire équipe si ton stade est écœurant. Puis ouais. En plus, mettons que les Rays auraient déménagé. On dit ça de même. Il va falloir se laisser là-dessus que nous, on dépasse. Mais t'aurais eu les Red Sox, les Yankees puis les Jays qui se seraient amenés combien de fois à Montréal dans l'année? Tu sais? Bref. C'est ça.
Écoute, c'est vrai pour l'expérience, par contre. Puis d'ailleurs, j'ai probablement pas fait autant de stades de balle que toi, Greg. J'ai dû en faire, je sais pas, une douzaine peut-être.
On est à peu près à même, on est à peu près égal.
Ouais, mais d'ailleurs, je pense que. Ben écoute, c'est dur, ben, j'allais dire. Bon, écoute, c'est dur de battre San Francisco sur le bord de l'eau. Là. Ça, c'est vraiment le fun, mais je vais te dire que je suis allé une fois avec les collègues du hockey, justement, l'année que les Saint-Louis, voyons, que les Blues étaient en grande finale. Les Cards étaient là au ce moment-là. Puis on est allé un vendredi soir voir un match de balle des Cards à Saint-Louis. Et en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, c'est dur à battre. C'est un des bons endroits certainement pour voir un match.
Oui, c'est ce qu'on me dit. Je ne l'ai pas fait encore et je souhaite probablement le faire durant mes vacances cet été. Je t'en donnerai des nouvelles. En attendant, sais-tu quoi? Qu'on aille voir un match ensemble. Merci Richard pour cette magnifique collaboration. Puis là, cet été, mais dans le Tailgate Weekend également, ça a été toute une année de radio qu'on a faite ensemble. J'ai bien hâte de t'écouter la semaine prochaine dans la game, par la suite le matin également. Et merci encore, mon cher ami.
Ben écoute, ça a été un plaisir absolument partagé et j'ai adoré, comme d'habitude, nos interventions. Et puis, je te souhaite d'excellentes vacances. Et j'espère, la semaine prochaine, ça va être facile de m'écouter de 10 à 14. Mais j'espère que les 3 semaines suivantes, tu seras debout à 6 heures.
Je ferai un effort, mon cher ami.
Et j'en demande pas moins de ta part.
Salut, Rich.
Allez bien, bye-bye.
Bye.